Bien manger, bien plus simple que vous ne le pensez. Là encore, vous l'avez entendu mille fois, une alimentation équilibrée est la clé d'un corps et d'un cerveau en pleine santé. J'aimerais juste vous rappeler un principe de base. Tout ce qui constitue notre corps, chaque atome, chaque molécule constituant chaque tissu, chaque organe, et toute l'énergie qui lui permet de fonctionner proviennent de notre alimentation et uniquement d'elle. Une mauvaise alimentation affecte non seulement la structure, mais aussi le fonctionnement de notre corps, donc de notre cerveau, donc de notre mémoire. Avoir une bonne mémoire se joue donc aussi dans notre assiette, CQFD. Rappelez-vous le premier chapitre. Notre cerveau est composé à 75% d'eau. Quand on a soif, on a déjà perdu 1% de notre eau corporelle. Or, une déshydratation de 1 à 2% suffit à altérer nos capacités d'attention et de mémorisation. Le premier aliment mémoire est donc l'eau. Un apport régulier, quelques gorgées toutes les heures, accélère même de 14% nos capacités cérébrales. Si on enlève toute l'eau de votre cerveau, on se retrouve avec 60% de gras. Voilà donc notre deuxième aliment mémoire. En effet, les lipides constituent non seulement les membranes de toutes nos cellules, mais ils gainent aussi les axones des neurones, assurant la bonne conduction des messages nerveux dans le cerveau et dans le corps. Même si, scientifiquement, les appellations « bon » et « mauvais gras » n'ont pas de sens, on doit manger de tout, pour le cerveau et la mémoire, certains gras sont meilleurs que d'autres. Ce qu'on a l'habitude d'appeler le « bon gras », ce sont les lipides polyinsaturés, comme les oméga-3. Petit aparté, oubliez le ratio oméga-3-oméga-6 inapplicable au quotidien. Retenez surtout qu'on manque généralement d'oméga-3. Fin du petit aparté. Vous les trouvez dans les huiles végétales, colza, lin, sésame. Les fruits à coque, noix, noisettes, amandes, cacahuètes, mais pas celles de l'apéro, hein, elles sont trop salées. Et les poissons gras, maquereau, hareng, sardine, saumon. Pourquoi sont-ils bons pour le cerveau ? Parce que ces lipides sont fluides. Ils permettent ainsi à nos neurones de rester souples et de mieux transmettre les messages, comme une corde a besoin de souplesse pour onduler. C'est aussi ce type de gras qui garde nos artères souples et donc en bonne santé. À l'inverse, les lipides saturés et trans, souvent qualifiés de mauvais gras, sont plus rigides. Utiles pour solidifier la membrane de certaines cellules, ils altèrent l'efficacité et diminuent la durée de vie de nos artères et neurones. On les trouve dans la viande, la charcuterie, les produits laitiers, l'huile de palme et les huiles végétales transformées, solidifiées ou surchauffé. Des études récentes ont montré que l'alimentation in utero impactait les capacités cognitives et mnésiques à l'âge adulte. L'enfance et l'adolescence sont aussi des périodes critiques, très vulnérables à l'alimentation. Chez les adolescents, par exemple, une alimentation trop riche en lipides saturés et trans affecterait à l'âge adulte la neurogénèse et les mémoires dépendantes de l'hippocampe. La malbouffe entraîne un mauvais gainage des neurones, donc un cerveau mal câblé et une mémoire affaiblie. Mangez équilibré et vos neurones seront bien gainés, votre cerveau bien câblé et votre mémoire renforcée. CQFD bis. Troisième aliment mémoire, le sucre, premier carburant du cerveau. Mais nous ne faisons que 3 ou 4, si on compte le goûter, repas par jour, alors que notre cerveau a besoin d'un apport en sucre en continu. C'est pour cela qu'il faut privilégier les sucres lents, présents dans les aliments complets, comme les céréales et farines, complètes donc. Un type. Plus le pain, les pâtes, etc. sont de couleur foncée, plus ils sont complets. Les fruits entiers, avec leurs fibres qui emprisonnent le sucre et ralentissent son absorption, sont aussi source de sucre lent. Le corps les digère progressivement, assurant un taux de sucre dans le sang et un apport au cerveau régulier. Les sucres à proscrire sont les sucres rapides, comme le sucre, la farine et le pain blanc. Les jus de fruits et les sucres ajoutés dans les produits issus de l'industrie agroalimentaire. À noter, quand on presse un fruit, on casse les fibres qui permettent de digérer plus lentement le sucre. Il y a alors autant de sucre rapide dans un jus de fruit que dans un soda. Quand on écrase des pommes de terre en purée ou qu'on mange des pâtes trop cuites, on casse les longues chaînes de sucre lent, les transformant en sucre rapide. Or, ces derniers pénètrent trop vite dans le sang et font grimper la glycémie. Le corps évacue alors le trop-plein de sucre en le transformant en graisse qu'il stocke dans les tissus adipeux. Il s'accumule dans le ventre, autour de nos viscères, et c'est là que le bât blesse. Non seulement le six-pack fait place aux abdos crocs, mais en plus cette graisse viscérale nuit à notre cerveau et à notre mémoire. En effet, les excès de sucre et de gras abîment la barrière hémato-encéphalique, une fine couche de cellules enrobant les 700 km de vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau et la moelle épinière. Elle filtre les substances toxiques circulant dans le sang et protège ainsi le cerveau. Avec l'âge ou la malbouffe, la barrière hémato-encéphalique de l'hippocampe devient poreuse et laisse alors passer des produits dangereux, comme les protéines amyloïdes impliquées dans la maladie d'Alzheimer. La graisse viscérale est aussi source d'une inflammation chronique qui se propage jusqu'au cerveau. L'inflammation cérébrale empêche les cellules gliales de remplir leur rôle nourricier et protecteur des neurones. Pire, elle les rend nocives. Les cellules gliales s'enroulant autour des synapses et libérant des substances chimiques. Ces deux actions, mécaniques et chimiques, perturbent la communication neuronale. L'hippocampe s'atrophie, provoquant des troubles de la mémoire. Sur le podium des aliments amis de la mémoire triomphent donc l'eau, les oméga-3 et les sucres lents, tandis que sur le podium ennemi trône la déshydratation à côté des excès de mauvais gras et de sucre rapide. Une bonne nouvelle néanmoins, comme pour le sport, il est toujours temps de changer son alimentation et ainsi d'inverser les effets sur sa santé et sa mémoire. La diète méditerranéenne et son dérivé spécial cerveau, le régime Mind, à base de légumes, noix, céréales complètes, légumineuses, poissons et viande blanche ont prouvé leur efficacité. Mais au lieu de s'imposer des règles trop rigides, mieux vaut appliquer quelques principes de bon sens. Pour les quantités, tout dépend de votre dépense énergétique au repos, votre métabolisme de base, et de vos activités physiques. Envisager ces apports énergétiques sans prendre en compte ces dépenses n'a aucun sens. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question de leur poids de forme, sachez qu'il dépend de votre patrimoine génétique, de votre morphologie, de votre âge, de vos grossesses ou de vos maladies. Bref, de là où vous en êtes dans votre vie. Votre poids de forme est celui que vous obtenez en mangeant à votre faim et en suivant les recommandations en matière d'activité physique, au minimum 2h30 d'intensité modérée par semaine. Si vous vous dépensez plus, mangez plus. Si vous vous dépensez moins, mangez moins. Quant à ce que vous mettez dans votre assiette, inutile de compter aliment par aliment, nutriment par nutriment, ça n'a pas de sens. Une bonne alimentation est avant tout une question d'équilibre global. Tenez, je vais tester votre mémoire de travail et lister mes 7 recommandations maison pour une alimentation protégeant la mémoire et la santé. La liste est corsée. Mais si vous êtes arrivé aussi loin dans ce livre audio, vous êtes désormais incollable sur les astuces pour bien mémoriser. D'ailleurs, je vous donne quelques explications à chaque fois afin que votre hippocampe et votre cortex préfrontal fassent des associations avec votre mémoire sémantique. 1. De l'eau, des oméga-3 et des sucres lents. On vient juste de le voir, je n'en rajoute pas. 2. Aucun régime restrictif. Vous priver d'une ou plusieurs catégories d'aliments est le meilleur moyen de créer des carences et des frustrations. Votre corps s'empressera alors de faire encore plus de réserves la prochaine fois. À alimentation égale avant et après un régime restrictif, vous stockerez et grossirez plus après. Vous entrerez inexorablement dans l'effet yo-yo. Résultat, vous grossirez de plus en plus. Il n'y a rien à faire à part arrêter la spirale infernale au plus tôt. Vous pouvez manger de tout, c'est juste une question de proportion. 3. Des aliments bruts, bio ou raisonnés et de saison. On évite au maximum les aliments transformés ou pollués. Plus on limite les pesticides, les additifs et les conservateurs, moins on intoxique le cerveau, plus on préserve notre mémoire. 4. Dans l'assiette, au moins 4/5 de végétaux, dont une majorité de légumes. Plus il y a de couleurs dans votre assiette, plus vous mêlez les vitamines, minéraux et antioxydants essentiels au bon fonctionnement de votre cerveau. Vitamine B, zinc et magnésium, entre autres. Si vous mangez varié, vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires. Ils sont d'autant peu efficaces que l'organisme élimine purement et simplement les vitamines en excès. Pour un apport riche en protéines, prévoyez un mélange de céréales et de légumineuses. 5. Cuisson. Ni trop fort, ni trop longtemps. Une cuisson trop forte ou trop longue détruit les vitamines, transforme les sucres lents en sucres rapides, le bon gras en mauvais et certaines protéines en substances cancérigènes et neurotoxiques. 6. On ne saute pas le dîner. Nous l'avons vu, la nuit, le cerveau turbine et il a besoin de carburant pour cela. L'hypoglycémie nocturne est certes indolore, mais fâcheuse pour les processus de mémorisation. Pas la peine de manger trop lourd ou trop tard le soir, mais des sucres lents au dîner sont recommandés. 7. On se fait plaisir. Comme pour le sport, activer son circuit de la récompense en prenant du plaisir à manger est le meilleur moyen de conserver notre motivation et nos bonnes habitudes. S'il fallait encore vous convaincre de l'importance d'une bonne alimentation, une étude norvégienne vient de montrer qu'en adoptant dès sa vingtaine un régime optimal riche en légumineuses, céréales complètes, fruits à coque, légumes et fruits, au lieu d'un régime occidental moyen, riche en féculents, produits laitiers et viande, une femme peut gagner 11 ans d'espérance de vie et un homme 13 ans. Si on s'y met à 60 ans, on peut encore gagner 8 ans, à 80 jusqu'à 3 ans. Même en ne changeant pas complètement ses habitudes, mais en montant par exemple à 100 grammes par jour de légumes secs, 137 grammes de céréales complètes et en réduisant la viande rouge à 50 grammes, on augmente à tout âge son espérance de vie de 7%. Il n'est donc jamais trop tard et on n'est pas obligé de tout faire bien. Chaque effort améliore votre santé, votre cerveau et votre mémoire. Pour finir, un petit détour par les idées reçues. Fabien vous a déjà parlé du phosphore, il s'agit d'un mythe. Quant au café qui serait bon pour la mémoire, si la caféine a bien des effets bénéfiques sur la santé lorsqu'on en consomme 3 fois par jour maximum, il en faudrait beaucoup plus pour constater des effets sur la mémoire. Effets qui seraient annulés par les inconvénients et le danger d'une surconsommation. Quant au sel, qui lui serait mauvais, attention. L'iode est un oligo-élément indispensable au bon développement cérébral, surtout in utero. C'est l'excès de sel, d'autant plus s'il s'ajoute à l'excès de gras et de sucre, qui est dangereux, mais il ne faut en aucun cas s'en priver. Il est temps maintenant de passer au sujet qui fâche, ce qui n'est pas bon pour notre mémoire, à commencer par l'alcool. Alcool, drogue, tabac, stress, pourquoi sont-ils mauvais pour la mémoire? Pourquoi l'alcool noie nos souvenirs?
Il faut que vous sachiez que j'ai passé quelques années dans le monde de la nuit, de 18 à 22 ans, et que j'ai eu tous les excès liés à l'alcool. Que celui qui n'a jamais connu de blackout lors d'une soirée arrosée me jette la première pierre. Aïe! Pourtant, la moitié des moins de 25 ans l'auraient déjà expérimenté. Je ne parle pas du coma éthylique avec perte de conscience, mais de moments pendant lesquels vous avez parlé, ri, chanté et dont vous ne vous souvenez plus du tout. Alors que les autres, eux, s'en souviennent très bien. Comme je travaillais ma mémoire depuis des années déjà, je n'ai pas bien apprécié de voir mes efforts anéantis par l'alcool et j'ai commencé à m'intéresser à ses effets sur le cerveau. Aujourd'hui, je suis cet artiste que l'on regarde étrangement puisque je demande dans mes loges de la bière sans alcool. Et oui, notre société française a une culture de l'alcool convivial qu'il est difficile de contrer lorsque l'on ne souhaite, pas toujours, en consommer. À ce sujet, j'ai beaucoup travaillé avec Santé publique France ces dernières années pour essayer de déculpabiliser les personnes qui souhaitent trinquer qu'avec un verre d'eau ou ce qu'ils veulent. Les amnésies dues à l'alcool peuvent survenir chez tout le monde si on boit trop et trop vite, entre 1,5 et 2 grammes par litre d'alcool dans le sang, soit 6 à 8 verres. Mais nous y sommes plus ou moins vulnérables selon notre patrimoine génétique, notre fatigue, notre estomac vide, notre consommation de cannabis et notre sexe. À poids et consommation identiques, les femmes sont plus touchées. Le blackout ne touche pas toutes nos mémoires. Sur le moment, notre mémoire de travail et nos mémoires à long terme fonctionnent suffisamment pour tenir une conversation ou conduire. C'est pour cela que l'on se sent capable de le faire au lieu de prendre un taxi.
C'est sur l'hippocampe que les dégâts sont ravageurs. L'alcool impacte les synapses. L'encodage et le stockage ne se font plus ou très mal. D'où une amnésie totale ou partielle le lendemain. Certains médicaments provoquent aussi des blackouts, des benzodiazépines prescrites contre l'anxiété, diazépam, valium, alprazolam, Xanax, et des somnifères puissants, zolpidem. Associés à l'alcool, ils sont donc particulièrement dangereux.
Si le binge drinking, hyperalcoolisation rapide, fait trinquer votre mémoire, la consommation régulière d'alcool aussi. D'abord, l'alcool entraîne une déshydratation, dont nous avons vu les effets néfastes sur le cerveau. En plus, elle le prive de vitamine B1, indispensable à l'attention, la concentration et la mémorisation. La vitamine B1 servant aussi à éliminer l'alcool, le foie la monopolise et elle n'arrive plus en quantité suffisante au cerveau.
Une carence aiguë en vitamine B1, conséquence d'un alcoolisme chronique sévère, peut même provoquer le syndrome de Korsakoff. Il se caractérise par de graves troubles de la mémoire épisodique. Privé de vitamine B1, l'hippocampe n'encode et ne stocke plus les événements récents.
Comme le cerveau a horreur du vide, il complète les trous béants laissés dans la mémoire épisodique et crée de faux souvenirs. Ce syndrome provoque aussi une fausse reconnaissance des visages. Le malade croit connaître tout le monde, même des inconnus. L'hippocampe est sévèrement atteint, les repères spatiaux et temporels s'effacent, les troubles de la marche et de l'équilibre apparaissent. Comme pour Alzheimer, les malades n'ont pas conscience de leur état. Si on ne peut pas réparer les dégâts, on peut stopper leur progression par un sevrage encadré et l'injection massive de vitamine B1. Alors évidemment, on essaie tous de se rassurer en se disant que l'on ne boit pas tant que ça, ou pas si souvent que ça. Mais il nous faut quand même être conscients des effets de notre consommation. L'alcool est néfaste pour notre cerveau et notre foie dès le premier verre. Je vous rappelle les recommandations de Santé publique France. Maximum 2 unités d'alcool par jour et pas tous les jours, avec un maximum de 10 unités d'alcool dans la semaine. Je parle en unités d'alcool car la molécule est la même dans toutes les boissons. Il n'y a qu'un seul alcool. Seule sa concentration change suivant votre commande au bar. Un demi de bière, 25 centilitres, contient le même alcool en même quantité qu'un whisky, 3 centilitres. Les deux verres valent une unité d'alcool. Commencez déjà par vous demander à chaque tournée si vous avez vraiment envie d'un verre avec de l'alcool ou si vous le consommez par réflexe, par habitude, pour faire plaisir, parce que la situation sociale l'impose, etc. Essayez d'éliminer tous les verres que vous ne voulez pas. Si vous constatez que malgré ça, votre consommation reste élevée, alors réduisez votre consommation petit à petit. Pensez à boire lentement, de préférence en mangeant, pour ralentir le passage de l'alcool dans le sang, puis alternez chaque verre d'alcool avec un verre d'eau. Pendant ce temps, vous ne buvez pas d'alcool et vous palliez la déshydratation. Vous me remercierez demain matin. L'alcool perturbant l'activité de nos neurones, il est considéré comme une drogue. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, la consommation de stupéfiants n'est donc pas non plus une alliée pour votre mémoire.
Une dernière précision. Avant 25 ans, votre cerveau n'est pas mature. L'alcool et toutes les autres drogues, tabac inclus, feront donc beaucoup plus de dégâts et parfois de manière irréversible. Donc, si on veut tester, mieux vaut attendre d'être adulte.